les êtres qui diffusent de la lumière. Thomas Edison était l'un des plus grands scientifiques de l'histoire du monde. Environ 120 années sont passées jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a inventé l'ampoule. Après ce jour, l'ampoule est devenue un des besoins les plus indispensables de la Terre. En s'allumant en même temps, des millions de ces petites ampoules ont éclairé des villes immenses. La lumière est devenue l'un des symboles les plus importants de la civilisation. Seulement, sur Terre, il y a une autre source de lumière qui possède une technologie de loin supérieure à ces lumières que vous voyez. Maintenant, faisons attention à cette petite lumière qui brille dans l'obscurité. Elle est forte et puissante. Seulement, la source de cette lumière est très différente de l'ampoule. Ce n'est pas un objet, c'est un être vivant. C'est une petite luciole. Ce petit insecte produit de la lumière dans son corps. Elle n'a pas d'ampoule. Elle n'utilise pas non plus d'électricité. Seulement, elle possède une technologie qui est supérieure. Elle est beaucoup plus efficace que l'ampoule. Une ampoule peut transformer en lumière uniquement 10% de l'électricité qu'elle reçoit. Quant à l'énergie des 90% restants, elle disparaît sous forme de chaleur. Or, la luciole produit de la lumière avec un rendement proche de 100%. La raison de cela est la création parfaite dans le système de production de lumière de l'insecte. Dans le corps de la luciole se trouve une substance chimique spéciale du nom de luciférine et une enzyme du nom de luciférase. Lorsque la lumière veut être produite, ces deux molécules sont assemblées l'une à l'autre et au final apparaît la lumière. Ces molécules complexes furent créées spécialement pour produire de la lumière. La place de chacun des atomes qui constituent ces molécules fut déterminée dans cette création. Il est certain que cette structure biochimique n'est pas un hasard. Elle fut créée spécialement. De la même manière qu'Allah donne différentes caractéristiques à chaque être vivant, il a également appris à faire de la lumière à la luciole. Très bien. Que fait la luciole avec la lumière qu'elle produit en utilisant une technologie avancée? Pour voir la réponse à cette question, il faut examiner de près une horde de lucioles. Ces images peuvent, pour ainsi dire, donner l'impression à la personne de se promener sous les étoiles. Seulement, ce que vous voyez, ce ne sont pas les étoiles, ce sont des centaines de milliers de lucioles. Ces lumières ont une signification très importante pour les lucioles, la communication. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont eu recours à divers procédés pour établir des communications. Un des procédés de cette communication est l'alphabet Morse, utilisé dans les télégraphes et qui consiste en des signaux courts. Et les lucioles établissent des communications en utilisant les signaux lumineux exactement comme dans l'alphabet Morse. En allumant et en éteignant sa lumière, la luciole mâle envoie un message à la luciole femelle. Ce message a un code spécial. Et en utilisant le même code, la luciole femelle répond à la luciole mâle. Au moyen de ces messages réciproques, le mâle et la femelle se rassemblent. Dès le moment de sa naissance, chaque luciole s'est envoyé un message avec ce procédé. et elle comprend les messages envoyés par les autres lucioles. Bref, chacun des milliers de lucioles que nous pouvons voir ensemble par une nuit obscure sont une merveille de la création. Quant à celui qui crée ces êtres vivants avec ce système extraordinaire, c'est Allah le Tout-Puissant, le Créateur de tous les êtres vivants. Certaines nuits, dans l'archipel des Bermudes, on peut voir un spectacle de lumière. Peu de temps après que le soleil se soit couché, d'intéressantes lumières se précisent sur l'eau. Ces lumières émanent des vers marins femelles qui remontent à la surface. La femelle mélange deux liquides chimiques qu'elle produit dans son corps. Et de manière miraculeuse, cet être vivant sait produire de la lumière par des voies chimiques. Et au final, apparaît ce spectacle de lumière. Les femelles font ce spectacle pour attirer l'attention des vers marins mâles. Quant à ceux qui s'approchent en diffusant de petites lumières brillantes, ce sont donc les vers marins mâles. Dix minutes après, les eaux de l'archipel se couvrent de centaines de femelles qui diffusent de la lumière. Si les nuages passent et que la lune réapparaît et éclaire l'eau, les femelles retournent à nouveau dans les profondeurs de l'eau. 20 minutes après, le spectacle est terminé. Si nous voulons voir le vrai centre où les êtres vivants communiquent en produisant de la lumière, nous devons aller dans l'endroit le plus sombre de la Terre, dans les profondeurs de l'océan. Pour pouvoir descendre à des centaines de mètres de profondeur, ce submersible que vous voyez fut conçu spécialement. À plus de 200 mètres de profondeur, la lumière du soleil ne peut désormais plus parvenir. Ici, c'est l'endroit le plus sombre de la Terre. Quant à la pression, elle est exactement de 20 fois celle qui est au niveau de la mer. Vous pourriez penser qu'aucun être vivant ne vive dans ces conditions. Or, lorsqu'un signal lumineux est émis depuis le submersible, il se produit un spectacle très intéressant. Ce que vous voyez, ce sont des êtres vivants qui, à nouveau, répondent à la lumière avec de la lumière et qui communiquent dans cet environnement obscur en produisant de la lumière. Lorsqu'on regarde ces êtres vivants de près, nous voyons le magnifique art de la création d'Allah. Ce merveilleux être vivant qui produit de la lumière rouge est une variété de méduses. Voici encore une autre variété de méduses. Les parures de lumière sur elles sont, pour ainsi dire, une exposition d'art. Pour regarder le vrai spectacle, il faut éteindre les lumières du submersible. Et voici ici un être vivant magnifique qui brille avec les ondes lumineuses qu'il produit lui-même. Quant à ceci, c'est un autre être vivant de la mer qui nage en diffusant des lumières. Personne ne connaît la signification de ces lumières. Ces êtres vivants sont des méduses. Leur corps est comme de la gelée. Elles ne possèdent aucun intellect ni aucune conscience. Aucune d'elles ne sait comment se forment les lumières sur leur corps. Pensez que les êtres vivants qui possèdent des systèmes complexes et sensibles à ce point se sont formés par hasard et complètement insensés. Il est certain que ces êtres vivants ont été créés de manière parfaite. Par conséquent, ce spectacle de lumière qui se réalise à des centaines de mètres de profondeur nous montre l'art et la force infinie d'Allah. Allah est celui qui est supérieur et fort. C'est le Créateur sans égal. Tout ce qui est sur la terre et dans la mer lui appartient. C'est le possesseur de l'intellect et du savoir infini. Voici ce qui est proposé dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. L'araignée ingénieure en conception. Tout au long de sa vie, chaque personne voit de nombreuses fois ces petits êtres vivants qu'on appelle les araignées, dans une zone rurale ou bien dans le jardin de sa maison. Ce petit être vivant qui n'attire pas l'attention de la plupart des gens est en fait une des manifestations parfaites de l'art de la création d'Allah. Pour voir cela, il faut un peu examiner l'araignée de près. Quand on dit araignée, la première chose qui vient à l'esprit est certes la toile d'araignée. Ces toiles sont une merveille de la création, car chaque toile d'araignée possède un plan architectural qui lui est propre et des calculs d'ingénierie conformes à ce plan. Si nous agrandissons une araignée à la taille d'un être humain, la taille de la toile tissée par cette araignée va être d'environ 150 mètres. Et ceci équivaut à un gratte-ciel d'une hauteur de 50 étages. S'il y avait une araignée capable de faire une toile d'une largeur de 50 mètres, cette toile aurait été puissante au point de pouvoir arrêter un jumbo jet. Très bien, comment l'araignée construit-elle cette toile qui possède ses particularités ? Pour que l'araignée puisse réussir cela, elle doit d'abord dessiner un projet tel un architecte, car une structure de cette taille, de cette conception et de cette solidité ne peut pas être réalisée sans un projet architectural. Et après que le projet ait été dessiné, il faut calculer tel un ingénieur en construction combien de poids vont venir sur quelle surface. Dans le cas contraire, la toile ne va pas pouvoir tenir. lorsqu'on examine comment l'araignée construit sa toile, on voit qu'il y a là un vrai miracle. L'araignée laisse d'abord le fil qu'elle produit dans le vide, et à l'aide du courant d'air, elle le fait tenir sur un point fixe. Ainsi, elle commence sa construction. Tisser la toile dure une heure ou plus. En ce moment, vous regardez cette opération accélérée par 60 fois. L'araignée tire d'abord de petits fils solides et tendus du centre vers l'extérieur et prépare l'ossature de la toile. Ensuite, en formant des anneaux de l'extérieur vers l'intérieur, elle aménage un fil collant et élastique. Et désormais, le piège est prêt. Ce n'est pas uniquement la conception de la toile d'araignée qui est un miracle, mais également le fil. Le fil de l'araignée est exactement 5 fois plus solide qu'un fil d'acier de la même épaisseur. Le fil de l'araignée a une force de tension de 150 000 kg par mètre carré. S'il y avait eu une corde d'un rayon de 30 cm fabriquée en fil d'araignée, cette corde aurait pu supporter 150 automobiles posées les unes sur les autres. En prenant comme exemple le fil d'araignée, les scientifiques ont produit une matière spéciale appelée Kevlar. Cette matière est utilisée dans la fabrication de gilets pare-balles. Avec une vitesse de 150 mètres à la seconde, cette balle transperce tout ce qui se présente à elle. Seulement, elle ne peut pas transpercer un tissu fabriqué en Kevlar. Quant au fil d'araignée, il est 10 fois plus solide que le Kevlar. Le fil d'araignée, qui est plus fin qu'un brin de cheveux, plus léger que le coton et plus solide que l'acier, est défini comme la matière la plus résistante de la Terre. L'acier, qui est l'une des matières les plus solides que possèdent les êtres humains, est produit dans les complexes de l'industrie lourde en utilisant du fer dans des fours chauffés à plusieurs milliers de degrés. Il fut conçu de manière spéciale pour être résistant. En utilisant de l'acier, les êtres humains construisent de larges édifices, de hauts bâtiments et des ponts. Or, l'araignée produit une matière qui est exactement 5 fois plus solide que l'acier. Seulement, elle n'a ni la possibilité d'utiliser des fours chauffés à plusieurs milliers de degrés, ni celle d'utiliser la technologie. C'est un petit animal qui n'a même pas de capacité à réfléchir. Le fait que ce petit animal produise un fil plus solide que l'acier, qu'ensuite, en utilisant ce fil, elle fasse des constructions telles un architecte et un ingénieur, est certes un grand miracle. En général, les gens connaissent les araignées comme des êtres vivants qui chassent en tendant une toile. Seulement, cette araignée du nom de Dinopsis n'attend pas que sa proie se fasse prendre dans la toile. Au lieu de cela, elle tend un piège mobile. En donnant exactement 200 coups à la minute, elle prépare des fibres très spéciales. Et ensuite, elle unit ses fibres les unes aux autres dans le cadre d'un plan très sensé. le piège mortel est prêt. Elle se met en embuscade sur les chemins où passent fréquemment les insectes. Ses yeux perçants remarquent le moindre petit mouvement. Elle emballe ensuite sa proie avec la soie spéciale qu'elle produit. En une nuit, l'araignée attrape plus d'une proie et tisse une toile distincte pour chaque proie. Cette toile est une vraie merveille de la création. La proie n'a pas de possibilité de se libérer de ce piège. Le procédé de chasse de l'araignée bolas est un autre miracle de la création. Cette araignée attire sa proie à elle avec un procédé imparable. Son objectif est les mites mâles. L'araignée produit dans son propre corps un fil plus solide que l'acier. Elle place sur ce fil des gouttes de colle très fortes. Ensuite, depuis un arbre, elle laisse pendre ce fil en bas, telle une canne à pêche. Tout comme un pêcheur, elle donne de petits coups à sa canne et elle attend patiemment. Pour attirer sa proie à elle, l'araignée utilise une astuce ingénieuse. Les mites femelles sécrètent une hormone, la phéromone, pour appeler les mites mâles. Et l'araignée imite à l'identique cette odeur et l'installe au bout de son piège. Face à cet appel séduisant, la mite mâle ne peut pas résister. Lorsque la mite s'approche, l'araignée commence à balancer son piège comme un lasso. Et la proie se fait attraper. Le plan merveilleux a été utile. À l'écran, vous voyez la formule chimique de l'hormone de phéromone que produit la mite femelle. Cette phéromone est une substance chimique extrêmement spéciale qui se trouve uniquement chez la mite femelle. Si nous voulions produire l'identique de cette substance chimique, nous serions obligés de faire des opérations complexes dans un laboratoire de chimie avancé. Si on imagine que l'araignée produit cette hormone avec son propre intellect, ce petit être vivant aussi doit suivre le même chemin. Elle doit d'abord trouver une mite femelle. D'elle, elle doit apprendre comment appeler à elle les mites mâles. Ensuite, de la mite femelle, elle doit prendre un échantillon de la substance chimique qui est la phéromone. Elle doit analyser cet échantillon. Selon la formule qu'elle trouve, elle doit produire une copie dans le laboratoire. Ensuite, elle doit placer au bout du lasso qu'elle a fabriqué la substance chimique qu'elle a produite. Or, il ne se trouve chez cette petite araignée ni l'intellect pour pouvoir faire une conception, ni une éducation, et ni un laboratoire de chimie. Très bien, comment cette araignée a-t-elle réussi à produire la copie de l'hormone de la phéromone tel un chimiste? Comment a-t-elle pensé à placer cette hormone au bout du piège qu'elle a fait. Les questions nous amènent à une vérité manifeste. C'est Allah qui a créé la substance chimique de la phéromone, les mythes qui produisent cette substance chimique et l'araignée qui utilise cette substance chimique pour chasser. Dans cet exemple, Allah le Tout-Puissant, qui règne sur tout l'univers et les êtres vivants, nous montre encore une fois son art de la création. Une autre araignée qui utilise un procédé sensé pour chasser est l'araignée trappe. Cette araignée n'attaque pas ses proies en l'air comme les autres araignées, mais de dessous la terre. L'araignée se creuse d'abord un nid sous terre. Ensuite, en utilisant encore sa soie et la terre, à l'entrée du nid, elle fait une porte ronde. En munissant de charnières un point de cette porte à la terre, elle fait tenir cette dernière. Elle tire de petits fils tendus de l'intérieur du nid vers l'extérieur. Elle camoufle les petits fils et la porte avec de la terre ou bien des feuilles. Au moyen de ce système, elle va pouvoir ressentir la plus petite vibration autour du nid ainsi que la direction de la vibration. Ensuite, elle se retire à l'intérieur du nid. Désormais, le piège est prêt. Un insecte qui passe sur le nid, en ne s'apercevant de rien, deviendra l'appât de l'araignée. Voici une petite fourmi. Elle se promène en toute confiance sur les fleurs. Mais l'une des fleurs est différente. Cette fleur est le dispositif piège de l'araignée. Très bien. L'araignée qui n'a pas d'aptitude à réfléchir et à raisonner, comment a-t-elle pensé à faire un piège et ensuite installer un système d'alerte précoce? En imitant les fleurs qui se trouvent par terre, de qui a-t-elle appris à cacher son nid? Et l'aspect encore plus intéressant de l'affaire, c'est que chaque araignée qui naît connaît la tactique de chasse de sa propre espèce. Cette araignée bolas, qui n'est encore qu'un bébé, a fait son premier lasso. Sa taille n'est même pas de celle du bout d'un doigt. Quant à son lasso, il est encore plus petit que la pointe d'une aiguille. Cette araignée Dinopsis, nouvellement née, a tissé une toile miniature. Ce bébé araignée, qui est un ingénieur de naissance, commence à tisser sa première toile. Le fait que de nombreux bébés araignées se trouvent dans un espace restreint peut occasionner de petites perturbations. Mais sous peu de temps, tout commence à fonctionner comme une horloge. Après une courte période, ces bébés araignées vont se séparer de leur mère pour faire leur propre nid. Cette situation montre très certainement que l'aptitude à tisser une toile et tendre un piège est inspirée aux araignées. Celui qui crée ces êtres vivants avec ses particularités merveilleuses, ainsi que la force qui leur inspire leurs actions, est sans aucun doute Allah le Tout-Puissant, le Seigneur de tous les univers. La création du chameau. une température brûlante de 55 degrés. Les dunes de sable sans fin qui s'étendent comme si cela n'allait jamais finir. Les tempêtes de sable qui engloutissent toute chose qui se présente à elles, qui ne laissent même pas respirer. Cet air brûlant du désert signifie la mort inévitable pour une personne sans protection. Quant aux véhicules de fabrication humaine, ils ne peuvent résister aux conditions désertiques que s'ils sont conçus de manière spéciale pour cela. Un véhicule, duquel on veut qu'il fonctionne dans le désert, doit être résistant à la chaleur brûlante et ne pas être affecté par les tempêtes de sable. De plus, il doit pouvoir parcourir une longue distance avec peu de carburant et doit consommer très peu d'eau. Quant à la machine qui résiste le mieux à ces conditions difficiles du désert, ce n'est pas un véhicule de fabrication humaine, c'est un être vivant. Tout au long de l'histoire, le chameau a servi les gens du désert et c'est un être vivant qui est devenu, pour ainsi dire, le symbole du désert. La chaleur brûlante du désert est mortelle pour les autres animaux. En dehors de quelques reptiles, insectes et certains petits animaux, aucun animal ne peut vivre dans le désert. Quant au chameau, c'est le seul grand animal qui peut vivre dans le désert. Car Allah a spécialement créé cet être vivant pour qu'il vive dans le désert et qu'il serve l'être humain. En effet, dans le Coran, dans le verset 17 de la sourate Al-Rashia, Allah attire ainsi l'attention sur la création du chameau. Ne regarde-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés? Lorsque nous regardons comment fut créé le chameau, nous voyons que chaque détail de cet être vivant est un miracle de la création en soi. Le plus grand besoin dans la chaleur brûlante du désert est de boire de l'eau. Seulement, trouver de l'eau dans le désert est très difficile. De plus, dans les sables sans fin, trouver de la nourriture est comme impossible. Un animal qui va pouvoir vivre dans le désert doit donc être très résistant à la faim et à la soif. En effet, le chameau fut créé de manière extrêmement résistante à la faim et à la soif. À une température de 50 degrés, il peut vivre sans eau et sans nourriture pendant exactement 8 jours. Le chameau, qui peut vivre sans eau pendant des jours, lorsqu'il trouve une source d'eau, il stocke immédiatement de l'eau. En 10 minutes, les chameaux boivent une quantité d'eau équivalente à un tiers de leur poids, de telle sorte que parfois, ils peuvent boire exactement 130 litres d'eau en une fois. Quant à ce qui concerne sa résistance à la faim, un dépôt de nourriture spéciale fut créé dans le corps du chameau. Ce dépôt est la bosse sur le dos du chameau. À l'intérieur de la bosse, environ 40 kg de graisse sont stockés. Au moyen de ce dépôt, le chameau peut marcher pendant des jours sans rien manger. La plupart des nourritures se trouvant dans le désert sont sèches et épineuses. Seulement, le système digestif du chameau fut créé de manière appropriée à ces conditions difficiles. Ses lèvres et ses dents sont constituées de manière à lui permettre de manger facilement, même les épines pointues. Quant à son estomac, qui possède une création spéciale, il est fort au point de pouvoir moudre pratiquement chaque végétal. Les vents du désert viennent soudainement. Ceux-ci sont généralement suivis par les tempêtes de sable. Les grains de sable sont étouffants et aveuglants. pour traverser ces conditions difficiles, Allah a créé cette fois encore dans le corps du chameau des systèmes de protection spéciale. Les paupières du chameau sont transparentes. Ces paupières protègent les yeux de l'animal à la fois des grains de sable et de la poussière et lui permettent de voir la lumière même lorsque ses yeux sont fermés. Quant à ses cils longs et serrés, ils furent créés de manière à ne pas laisser entrer de la poussière dans ses yeux. Et il y a également une création spéciale dans le nez du chameau. Au moment où la tempête de sable commence, les narines se ferment avec des clapets spéciaux. L'un des plus grands dangers pour un véhicule qui roule dans le désert est de s'enfoncer dans le sable. Seulement, il n'y a pas un tel danger pour le chameau malgré le fait qu'il porte des charges de centaines de kilos, car même les pattes du chameau furent spécialement créées pour le désert. Les larges doigts de l'animal l'empêchent de s'enfoncer dans le sable et servent comme des raquettes à neige. Et les longues pattes du chameau tiennent son corps à distance de la chaleur brûlante du sol désertique. Quant à son corps, il est couvert de poils serrés et durs. Ce pelage protège l'animal à la fois des rayons brûlants du soleil et du froid désertique qui commence après que le soleil se soit couché. Sur certaines régions du corps du chameau, il y a des couches de peau épaisses et protectrices. Ces couches rigides furent positionnées sur les zones qui vont entrer en contact avec le sable lorsque le chameau s'assoit sur le sable brûlant. Par ce moyen, la peau de l'animal n'est pas brûlée par la chaleur. Ces couches de peau rigides ne sont pas des callosités qui se forment avec le temps. Le chameau naît ensemble avec celle-ci. Cette constitution spéciale montre encore une fois la perfection dans la création du chameau. Réfléchissons sur toutes ces caractéristiques que nous avons examinées chez le chameau. Les systèmes spéciaux qui permettent de résister à la soif. La bosse qui lui permet de résister à la faim. La structure des pattes qui l'empêche de s'enfoncer dans le sable. Ses paupières transparentes et ses cils qui protègent ses yeux du sable. Son nez créé de manière spéciale contre les tempêtes de sable. La structure de sa bouche, de ses dents et de ses lèvres qui lui permettent de manger les épines et les plantes du désert. Son système digestif qui lui permet de digérer tout type de nourriture. Ses couches de peau spéciales qui protègent sa peau du sable brûlant. Son pelage spécial créé pour être protégé à la fois de la chaleur et du froid. Et toutes ces autres caractéristiques qui ne peuvent en aucun cas être expliquées avec l'argumentation du hasard de la théorie de l'évolution montrent une réalité très claire. C'est Allah qui a créé cet être vivant pour qu'il vive dans le désert et pour qu'il serve les êtres humains là-bas. La réalité de la création. Dans ce film, nous avons fait un voyage qui s'est étendu dans les profondeurs des océans, les déserts chauds et jusqu'à l'intérieur des forêts de l'Amazonie. Et lors de ce voyage, grâce aux êtres vivants que nous avons examinés, nous avons été témoins d'une vérité très importante. La puissance d'Allah et la splendeur dans sa création se manifestent dans chaque coin du monde. Et la science d'Allah a enveloppé chaque endroit. Dans un verset du Coran, Allah précise ceci. Votre Dieu est uniquement Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse toutes choses.